Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Actualité riche ce soir, alors que la parole se libère sur l'inceste avec le hashtag MeTooInceste sur les réseaux sociaux. C'est une survivante devenue une combattante qui viendra témoigner. Elle s'appelle Isabelle Aubry. Elle sera avec nous tout à l'heure à 18h15. À 18h35, rendez-vous avec la ministre des Sports, Roxana Maraciné à nous. Le sport très durement impacté par l'épidémie, de ses plus jeunes pratiquants à ses plus glorieux champions. Et puis juste après, ce sera l'œil de Philippe Cavrivière, parce que si on ne rit pas, on a perdu notre journée. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce mardi 19 janvier.
Et à la une ce soir, le premier bilan de la vaccination. 5 décès, dont 3 à Nancy, enregistrés depuis le début du mois de janvier. Mais attention, pas de panique, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. On vous explique tout dans un instant. Dans ce journal également, le blues des commerçants à la veille du coup d'envoi des soldes. La natalité au plus bas depuis 1945, et oui. Et puis on ira bien sûr aux États-Unis. L'investiture de Joe Biden, c'est demain.
La météo, Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas.
Vous n'êtes plus qu'à contact. Vous êtes dans le retour dans le studio. On est content de vous voir.
Je suis ravie aussi.
Mais bon, demain, il y aura des nuages.
Et oui, désolé, avec de la pluie en plus sur le nord-ouest et le sud-est toute la journée. Un ciel couvert dès le matin entre le centre et les frontières du nord. On profitera quand même d'éclaircies ailleurs, mais ça ne va pas durer puisque les nuages vont gagner l'ensemble du pays au fil des heures. Et puis le vent sera bien présent partout et se renforcer en cours de nuit. Les températures, elles seront encore en hausse avec des maximales comprises entre 7 et 15 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et on commence donc avec ce chiffre. Le ministère de la Santé annonce avoir répertorié 5 décès. 5 décès en France depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid. Mais attention, prévient Olivier Véran, pas question de paniquer.
Attention, décès des suites 2, ce sont des personnes qui ont pu décéder dans les jours qui ont suivi la vaccination sans pour autant présenter des signes de réaction allergique après la vaccination.
Bonsoir Agathe Landais.
Bonsoir.
Vous nous le confirmez, il n'y a aucune raison de s'inquiéter.
Il faut surtout remettre ce chiffre dans un contexte. On dénombre donc 5 décès sur au total 480 000 personnes vaccinées. Ça représente donc 0,001% de décès. C'est très très peu, d'autant qu'il est difficile d'affirmer avec certitude que ces 5 décès sont directement liés au vaccin. Rappelons qu'on parle là de patients très âgés et que la mortalité en EHPAD est toujours forte, même hors période épidémique. Selon le ministère de la Santé, ces 5 personnes vivaient donc en EHPAD, elles avaient toutes plus de 75 ans et souffraient de comorbidité. 3 de ces décès ont été rapportés par le centre de pharmacovigilance de Nancy, un à Tours et le dernier à Montpellier. C'est l'agence de sécurité du médicament, l'ANSM, qui est chargée de surveiller ces personnes vaccinées, de faire remonter les décès, les effets secondaires. Jeudi dernier, elle avait communiqué sur le tout premier décès, un patient très âgé en EHPAD avec de lourds antécédents médicaux, des traitements également lourds. Il était décédé 2 heures après son injection du vaccin Pfizer. L'ANSM concluait alors qu'étant donné son profil, rien ne permettait de conclure que ce décès était en lien avec sa vaccination.
Ça veut dire, Agathe, que ces personnes, oui, ont été vaccinées. Non, elle n'était pas en bonne santé et le lien direct n'existe pas aujourd'hui, n'est
exactement,
pas prouvé.
Exactement, il est impossible d'établir actuellement que c'est à cause du vaccin qu'elles ont perdu la vie.
Au moins, merci, les choses sont claires.
Si, effectivement, c'était très clair. Merci à vous, Agathe Landais. C'est dans ce contexte, en pleine crise donc sanitaire, que débutent demain les soldes d'hiver, des soldes dans une ambiance forcément morose. Couvre-feu oblige, Arnaud Touche.
Dans ce magasin de vêtements, depuis quelques jours, on range les rayons. Et on s'occupe de coller les toutes dernières gommettes de couleur.
On sera plutôt aux alentours de moins 50, moins 60.
Dès le début.
Dès le début.
Virginie est la responsable du magasin Koukaï et elle aborde les soldes avec sérénité car elle n'a pas de surstock dans sa réserve.
Puisqu'on a quand même eu un bon retour pendant le confinement du click and collect et on a eu malgré tout un beau mois de décembre. Donc on a un stock assez classique.
Cela s'explique notamment par des ventes privées qui ont bien marché ce mois-ci. Une situation qui tranche avec cet autre commerçant indépendant.
On est pour l'instant à moins 70% de chiffres sur le mois de janvier.
Philippe vend des bijoux et des sacs dans plusieurs boutiques à Paris. Et pour lui, cette période de soldes qui s'ouvre sera très particulière.
On ne voit plus les clients. Et en plus, ceux qui viennent n'achètent pas parce qu'ils attendent les soldes. Et donc, l'ambiance générale n'est pas bonne. Et de nous avoir fait décaler cette période, je pense, c'est encore la pire des choses.
Philippe ne se fait plus d'illusions. Il explique qu'il ne pourra pas rattraper le manque à gagner du mois de janvier. Et qu'avec le couvre-feu, l'ambiance ne sera pas la même qu'auparavant.
Un reportage à Paris signé Arnaud Touche pour RTL. Ces soldes, on le rappelle, doivent durer 4 semaines jusqu'au 16 février. Bruno Le Maire nous disait hier soir que pour lui, il n'était pas question de les prolonger au-delà. Une crise sanitaire, Amandine, qui pèse aussi sur la santé de nos enfants.
Entre le confinement et les dernières restrictions sanitaires, ils ne font plus de sport ou presque. Résultat, des kilos en plus pour 2 enfants sur 5, jusqu'à 6 kilos. Ça n'est pas rien, ça vaut pour les ados, pour les petits aussi, comme vous avez pu le constater, Isabelle Langer.
Oui, à l'école Paul Bert de Nogent-sur-Marne, en banlieue parisienne, les enfants sont honnêtes sur leurs petits ou grands écarts pendant le confinement. Écoutez Béni.
Pendant le confinement, ma mère, elle achetait à manger. Elle achetait beaucoup des hamburgers, des pizzas. Et moi, je mangeais et à force de manger, ça commençait à grossir.
Et la petite Aliénor de confesser.
En fait, j'ai plutôt resté sur mon canapé en train de manger des sucreries.
Et t'as pris des kilos ?
100 kilos.
La directrice de l'école, Fanjara Janson, est loin d'être surprise. Au retour du premier confinement, elle avait déjà pris la mesure de l'ampleur des dégâts.
J'ai vu des enfants qui étaient en grande forme physique, on va dire.
Un brin d'humour pour cacher une situation alarmante, comme l'explique Michel Simès.
L'indice de masse corporelle a considérablement augmenté pendant le confinement chez les enfants. On dit même qu'il y a 40% de capacité cognitive en moins et de capacité physique. C'est une vraie catastrophe. Déjà, la situation n'était pas fameuse avant le confinement, mais là, entre la sédentarité, le manque d'activité, le grignotage, etc., bien évidemment, vous savez, les adultes ont pris en moyenne 2,5 kg. Je ne vois pas pourquoi les enfants ne les prendraient pas également.
Et de tirer la sonnette d'alarme pour que les enfants fassent au moins une demi-heure de sport par jour à l'école.
À Nogent-sur-Marne, le reportage RTL d'Isabelle Langer. On aura l'occasion d'en reparler avec Roxana Maressiné à nous, puisque la ministre des Sports sera votre invitée, Thomas. Ce sera à 18h40 sur RTL. Autre conséquence de cette crise, notre espérance de vie a baissé. Bonsoir Éric Vanier.
Bonsoir.
C'est ce qui ressort du bilan annuel de l'INSEE.
Oui, par un effet mécanique, le nombre des décès a fait un bond de 9% l'an dernier, ce qui n'était jamais arrivé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, même pas en 2003, lors de la canicule. Et du coup, même si la grippe en 2020 a été moins meurtrière, même si le nombre d'accidents mortels sur les routes a reculé, les victimes du coronavirus ont fait s'envoler le taux de mortalité et réduit l'espérance de vie moyenne des Français de 6 mois pour les hommes et de 5 mois pour les femmes. À noter aussi dans les conséquences directes de la pandémie, l'effondrement du nombre des mariages, moins 34%, sans que l'on sache si ce creux sera comblé en 2021.
Alors Eric, en bas de la pyramide, d'un côté naissance, c'est pas la fête non plus, on est au plus bas depuis 1945.
Oui, pour la 6e année consécutive, la natalité s'effrite. 740 000 bébés sont nés en France l'an dernier, c'est-à-dire 13 000 de moins que l'année précédente. Il y a toujours autant de mamans, mais les familles rétrécissent. Le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, est maintenant nettement descendu en dessous de 2. Alors là, difficile encore de faire un lien direct avec la pandémie. Est-ce que la morosité ambiante, le manque de confiance dans l'avenir a accentué ce phénomène? Ou à l'inverse, est-ce que les deux confinements vont provoquer un rebond des naissances? L'INSEE n'a pas encore les réponses. Il faut patienter 9 mois.
Eh oui, 9 mois, effectivement, pour faire un bébé. Merci
beaucoup.
Ça, c'est
beaucoup, la règle immuable.
Hein. Éric Vanier, pour ses explications.
Petite pause dans un instant. Un ancien Premier ministre et son ex-ministre de la Défense se retrouvent ensemble devant la justice.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h09 et on vous retrouve Amandine Bégaud avec un procès, le procès d'Edouard Balladur.
C'est l'un des volets de l'affaire Karachi, ses soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995. L'ancien Premier ministre, âgé aujourd'hui de 91 ans, comparait Anne Le Hénaff aux côtés de son ancien ministre de la Défense, François Léotard.
Oui, les deux sont assis face à la cour, chacun d'un côté de l'allée centrale. François Léotard porte une polaire sombre, un blouson en cuir. Il n'a pas d'avocat. Il s'agit de mon honneur, je me défendrai moi-même, a expliqué l'ancien ministre de la Défense. Édouard Balladur, lui, crâne dégarni et costume cravate plus classique, consulte des notes rangées dans une pochette rouge. Ses trois avocats sont assis derrière lui. Ils vont plaider la relaxe dans ce dossier compliqué où il est question de contrats d'armement, de commissions, de rétrocommissions, de sacs de billets de 500 francs. Le dossier doit faire 100 000 pages, estime l'un des avocats d'Édouard Balladur. À 91 ans, l'ancien Premier ministre s'est appuyé sur les bancs et les pupitres pour quitter la salle lors d'une pause. François Léotard, lui, est resté dans son fauteuil, seul. Il lit l'un des deux livres de poche qu'il a posé devant lui sur une table en bois.
Anne Le Hénaff devant la CJR, la Cour de justice de la République pour RTL. Le procès de Georges Tron lui a été suspendu dès l'ouverture, l'ancien secrétaire d'État étant cas contact. Et puis, dans l'affaire de la disparition de Sophie Le Tan, ses aveux, ceux de Jean-Marc Reiser, déjà mis en examen dans ce dossier. Pour la première fois aujourd'hui, il a reconnu avoir tué la jeune femme. Il évoque une dispute qui a mal tourné.
Le monde entier dans les prochaines heures d'ailleurs va regarder ce qui se passe vers les États-Unis. C'est aujourd'hui le dernier jour à la Maison-Blanche pour Donald Trump.
Oui, c'est demain qu'il quitte les lieux. Demain aussi que Joe Biden prête serment. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir à tous.
Vous êtes sur place pour RTL, hein, sur place à Washington. Washington qui est sous cloche, sous très très haute sécurité. On est bien loin des cérémonies d'investiture du passé.
À l'arrivée de la gare de Washington, le hall est vide. La plupart des magasins sont fermés. Seul Tini maintient vaille que vaille son stand d'articles de souvenirs. Il est midi, premier bilan.
One customer.
Un seul client. Elle vend des souvenirs ici depuis 21 ans. D'habitude, les t-shirts, mugs et autres médailles estampillées du nouveau président se vendent à l'appel.
Je n'ouvre que 4 heures par jour. Normalement, je travaille de 9h du matin à 9h du soir et même 10 heures avant l'investiture.
Tout le centre politique de Washington est désert. On entend même les drapeaux claquer au vent. Covid oblige, la cérémonie devait être calme. Depuis l'attaque du Capitole, elle est anxiogène, comme pour Nelson, qui travaille ici pour une ONG.
Moi, j'ai jamais vécu tout cela. Jamais dans ma vie, j'ai cru que j'allais voir des soldats, 20 000 soldats, dans les rues de Washington. Beaucoup de rues sont bloquées et il y a des barrières autour du Capitole. C'est pas normal, c'est inquiétant.
Pour les Américains, l'investiture est un symbole et une fête. Demain, il restera le symbole.
Lionel Gendron à Washington pour RTL. Le sport, et c'est l'un des cyclistes préférés des Français, Thibaut Pinot, pourtant ne participera pas cette année au Tour de France.
Ah bah non.
Il l'a annoncé, il l'annonçait tout à l'heure. Le franc-comtois préfère, dit-il, se concentrer sur le Giro, le Tour d'Italie.
Bon, ça, c'est pas une très très bonne nouvelle. Hein. Du coup, ça tient toujours là, vos résolutions
pour
la bonne nouvelle, hein. Bon,
la
allez,
bonne
jingle,
nouvelle
on va voir ce qu'il y a derrière.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec le retour au fourneau de cet apprenti boulanger guinéen récemment régularisé. On a beaucoup parlé de cette affaire sur RTL. Son employeur, un boulanger de Besançon, vous en souvenez sans doute, s'était mis en grève de la faim pour alerter les pouvoirs publics, pour faire en sorte qu'il ne soit pas expulsé. Et bien ça y est, Lai, c'est son prénom, a repris le travail.
Au début, je ne m'attendais pas qu'il me soutenait comme ce qu'il a fait. Il a mis sa santé en danger pour moi. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un aussi qui pourrait faire ça. Je trouve ça beaucoup trop pour moi, quoi. Le travail, ça me manquait beaucoup parce que le patron, il m'a donné l'amour de la boulangerie et m'expliquait le métier comme il faut. Donc, j'ai trouvé un bon patron. J'aime le métier que je fais aujourd'hui.
La belle histoire du jour.
J'ai l'impression qu'il a trouvé un bon employé aussi. Hein.
Avec Samuel Goldschmidt.
Bon, vous y arrivez. On est le 19 janvier.
C'est pas mal,
19 bonnes nouvelles. Ça tient la route pour l'instant. Merci, à tout à l'heure, Amandine. Un témoignage très fort à suivre dans RTL Soir. C'est celui d'une victime d'inceste qui veut faire bouger les lignes et faire changer les lois. Elle s'appelle Isabelle Aubry et elle a des propositions très concrètes à faire.
RTL Soir. RTL Soir. Thomas Soto.
La première fois, j'avais 6 ans, c'est le titre d'un livre qu'Isabelle Aubry a publié une première fois en 2008 et qui ressortira, largement mis à jour, dans 3 jours. L'association Face à l'inceste qu'elle a créée également, Isabelle Aubry, est l'invitée d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Isabelle Aubry, merci d'être en ligne avec nous.
Bonsoir, merci de votre invitation.
On a l'impression, Isabelle Aubry, que depuis les révélations de Camille Kouchner visant Olivier Duhamel, la France est en train d'ouvrir les yeux enfin sur l'inceste. Vous qui vous battez depuis 20 ans pour éveiller les consciences, qu'est-ce que vous vous dites ?
Je me dis que c'est une bonne nouvelle, qu'on a avancé. Maintenant, il ne faudrait pas que l'on en reste là. Il faut que ça se transforme en prise de conscience politique et en acte politique. C'est pour ça que, en fait, nous proposons 30 mesures concrètes pour protéger les enfants et pour lutter contre l'inceste, comme on l'a fait pour les violences faites aux femmes.
Quelle est la première de ces mesures qu'il faudrait prendre ? Parce qu'aujourd'hui, si vous dites qu'il faut des mesures pour protéger l'enfant, ça veut dire que la loi ne protège pas assez l'enfant victime d'inceste en France ?
Alors, il n'y a pas que la loi, en fait. C'est vrai qu'il y a des mesures à changer au niveau de la loi, et notamment, il faut changer ce problème du consentement, c'est-à-dire qu'il faut cesser d'interroger un enfant sur son consentement et envoyer un message clair disant, voilà, en dessous de tel âge, 15 ans, il est interdit de toucher à un enfant et surtout de le questionner sur son consentement. 18 ans pour l'inceste, ça envoie le message qu'on protège nos enfants. C'est pas le cas en France.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour voir si j'ai bien compris, aujourd'hui, quand un enfant est abusé par un de ses parents, par exemple, s'il a 12 ans, on va chercher à vérifier s'il n'était pas consentant. On en est là en France aujourd'hui ?
Ah ben bien sûr, oui. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que pour qualifier un viol, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait eu une pénétration sexuelle et il faut une absence de consentement. Donc il faut bien la prouver, cette absence de consentement. Et aujourd'hui, si vous voulez, la loi, elle traite indifféremment l'adulte et l'enfant. Quel que soit l'âge de la victime, il faut prouver ce consentement, cette absence de consentement. Donc moi, par exemple, mon père, comme j'étais incapable de prouver que je m'étais opposée à lui, eh bien, il a été jugé pour ce qu'on appelle l'atteinte sexuelle, c'est-à-dire des actes sexuels pour lesquels j'étais, entre guillemets, consentante. Donc, au lieu d'être passible de 20 ans de prison et que ce soit un crime, il a été passible de 10 ans de prison pour un délit. Donc, il en a pris 6, il en a fait 4.
Sachant que votre père a abusé de vous pour la première fois quand vous aviez l'âge de 6 ans, qu'il vous a emmené voir des couples échangistes, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez parlé, que vous avez arrêté de vous taire, Isabelle Aubry ?
Bien, je me suis d'abord mise en sécurité en allant, parce que je vivais seule avec lui, et je me suis mise en sécurité en allant vivre chez ma mère. Mais c'est pas moi qui ai parlé, en fait, c'est ma voisine. Et ça, c'est un message fort à faire passer, c'est-à-dire qu'on doit tous ouvrir les yeux. On doit tous être attentifs, et c'était le cas de ma voisine. Elle voyait que j'allais pas bien, et elle m'a questionnée jusqu'à ce que je dise, que je révèle tout ce qui se passait. Et au moment où j'ai été en sécurité, elle a alerté ma mère, et on est allé à la police. Et d'ailleurs, mon père a avoué tout de suite les faits. Par contre, il a dit que j'étais consentante.
Vous dites qu'il faut parler, mais comment trouver le courage ? Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui nous écoutent sans doute ce soir, qui sont des victimes aussi, mais qui se taisent, qui ont honte, qui ont peur, comme si les victimes devenaient les coupables dans ce genre d'affaires ? Parce qu'il faut accuser son père, il faut accuser son oncle, il faut accuser quelqu'un de sa famille, ses proches. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Ben, je dis, parce que je sais combien le chemin est difficile, je sais à chacun son heure, à chacun son chemin, il faut être solide pour faire ça. Effectivement, ça peut prendre des années. Et il faut avoir souvent réussi à construire ce que j'appelle le trépied de l'équilibre, une vie affective, une vie professionnelle, avoir construit sa propre famille, pour parfois être suffisamment solide pour affronter tout cela. Ça peut prendre, ça prend en moyenne 16 ans pour les victimes. Et en général, ce qui aujourd'hui encore est difficile à entendre, c'est que cette révélation repose à 74% sur les épaules de la victime. Donc moi, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est surtout qu'il faudrait qu'il y ait un travail de la société pour ouvrir les yeux sur ce fléau de santé publique qu'est l'inceste, qu'on fasse des campagnes de sensibilisation, pas seulement auprès des enfants, mais aussi auprès des auteurs, qu'on fasse de la prévention, qu'on ouvre les yeux, qu'on... Voilà, pour le moment, c'est pas fait.
Vous avez donné ce chiffre, 16 ans en moyenne, davantage pour certaines victimes. Ça pose la question de la prescriptibilité de ce crime qu'est l'inceste. Aujourd'hui, ces crimes d'inceste sont prescriptibles. Dans l'affaire Duhamel, par exemple, si les faits étaient avérés, en tout cas, il ne pourra pas être jugé parce que les faits présumés sont prescrits. Il y a un débat qui dit « rendons le crime d'inceste imprescriptible ». Est-ce que vous y êtes favorable ?
Ah ben, nous nous sommes créés sur cette volonté, parce que tout au début, nos membres, on avait des membres canadiens pour qui, là-bas, il n'y a pas de prescription. On a pu comparer le traitement de ces crimes entre la France et le Canada.
Vous entendez Isabelle Aubry, ceux qui disent en France, ne mélangeons pas tout, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.
Oui, c'est ce qu'on nous dit depuis 20 ans. Moi, j'entends ça depuis 20 ans. Quand on ne veut pas changer les choses, on nous dit ça. Voilà. Pourtant, il y a des pays, tous les pays du common law, n'ont pas de prescription pour les crimes graves. Donc c'est possible. Les meurtres que les viols. Donc c'est possible. Et nous, en fait, moi je pense surtout aux enfants, c'est-à-dire que l'inceste est un crime qui se transmet de génération en génération quelque part, et bien souvent les victimes, quand elles parlent, c'est pour protéger les petits, les nouvelles générations. D'ailleurs, on le voit bien dans le livre de Camille Kouchner. À un moment donné, on se dit mais aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va arriver aux cousins, aux cousines? Voilà. Et là, on ne peut pas s'entendre dire c'est stop, quoi. On ne peut pas poursuivre.
Il y a un numéro important, hein, c'est le 119, numéro gratuit, anonyme, qu'aurait pu appeler votre voisine à l'époque qui vous a sorti en quelque sorte de cet enfer, que tout le monde peut appeler, que les victimes peuvent appeler, anonyme et gratuit, le 119. J'ai une dernière question. Suite à l'affaire Kouchner-Duhamel, il y a ce mouvement, ce hashtag MeTooInceste qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. C'est important, ça aussi, ça compte, ou c'est l'écume des vagues, presque un effet de mode comme les réseaux sociaux savent en générer?
Ouais, écoutez, nous on s'est créé sur Internet il y a 20 ans et moi j'ai tout de suite perçu que la voie de la libération de la parole des victimes serait sur Internet. Les réseaux sociaux n'existaient pas, mais j'ai vu, dès que j'ai publié mon site, c'était le seul site francophone sur l'inceste à l'époque, déjà des centaines de victimes venir et témoigner. Et en fait, l'avènement des réseaux sociaux est aussi un outil formidable pour libérer la parole. Maintenant, en fait, quand il y a eu le premier MeToo, il y avait beaucoup de victimes qui parlaient d'inceste, mais ça n'a pas été identifié comme de l'inceste. Là, avec cette vague-là, c'est vraiment le MeToo inceste. Et il faut que ce soit entendu et écouté comme étant de l'inceste. Maintenant, il faut voir quelle réponse on va avoir à tout ça.
Et ça, c'est ce que vous demandez, l'interpellation que vous faites au gouvernement. Merci Isabelle Aubry. Votre site, hein, c'est facealinceste.fr, facealinceste.fr. Le numéro, c'est le 119. Et je rappelle que la nouvelle version de votre livre, La première fois j'avais 6 ans, sortira vendredi chez Ixo Document. Merci d'avoir été en direct dans RTL Soir. Elle est la ministre d'un monde du sport malade de l'épidémie, malade du Covid. Tout de suite, Roxana Maracineanu, l'invitée d'RTL Soir. C'est juste après le rappel des titres.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et à la une ce soir, ce nouveau record dramatique au Royaume-Uni. 1610 décès liés au Covid en seulement 24 heures. La situation reste critique outre-Manche. En France, Jean Castex, lui, maintient l'objectif du million de personnes vaccinées d'ici à la fin du mois. Cessez d'affoler, a lancé le Premier ministre tout à l'heure aux députés de l'opposition. C'était à l'Assemblée. Dans l'actualité également, le début du procès d'Edouard Balladur. L'ancien Premier ministre comparait aux côtés de son ancien ministre de la Défense, François Léotard. C'est l'un des volets de l'affaire Karachi. Ses soupçons de financement occulte de la campagne de 95. Et puis Thibaut Pinot renonce au Tour de France, au moins pour cette année. Le cycliste dit vouloir se concentrer sur un autre tour, le Giro, le Tour d'Italie.
Gare au vent, la météo, Peggy Broche, ça va souffler demain.
Oui, et dans tout le pays, Thomas, avec des rafales jusqu'à 100 km/h sur les crêtes pyrénéennes, la vallée du Rhône et le Val de Saône. Attention, parce que ce vent va se renforcer dans la nuit de mercredi à jeudi. Côté ciel, de la pluie sur le nord-ouest, dans le sud-est également toute la journée. Ailleurs, on aura un ciel qui deviendra de plus en plus nuageux, le tout sous des températures douces pour la saison, des maximales comprises entre 7 et 15 degrés.
Merci à vous, Peggy. Elle est donc la ministre déléguée en charge des sports, Roxana Maracineanu, et l'invitée d'RTL Soir tout de suite et en direct. Bonsoir et bienvenue à vous, Roxana Maracineanu.
Bonsoir.
Entre les confinements, les couvre-feux, les mesures sanitaires, nos enfants ne font plus assez de sport. On l'entendait dans le journal de 18h et ils grossissent. Ça inquiète les médecins, ça inquiète le syndicat national des pédiatres français et l'association française de pédiatrie ambulatoire qui l'ont dit devant une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Ils parlent d'une prise de poids allant jusqu'à 6 kilos pour les enfants. Quelle réponse, Madame la Ministre, pouvez-vous apporter à ce problème qui pourrait devenir demain un problème majeur de santé publique ?
C'est vrai que l'arrêt du sport, ou en tout cas la diminution de l'activité physique, que ce soit à l'école ou dans les clubs sportifs, de fait, à cause de la crise sanitaire, c'est un véritable fléau social, mais aussi sanitaire, qui s'ajoute à la difficulté de la crise aujourd'hui que nous vivons. Il faut qu'on maintienne le sport en vie, c'est ce que je m'attache à faire au quotidien. Mmh. Aujourd'hui, il y a la possibilité de pratiquer à l'extérieur, dans une association, un équipement sportif. Il y a la possibilité pour les adultes qui n'ont pas besoin forcément d'être encadrés, de pratiquer de manière individuelle partout.
Aujourd'hui, c'est possible en plein air. Hein.
Plein air, dans une association ou dans un équipement sportif, mais aussi bien sûr dans sa journée avant 18h.
Est-ce que vous voulez qu'il y ait une dérogation possible pour ceux qui voudraient par exemple aller courir après 18h, comme ça avait été le cas lors du confinement? On avait le droit d'aller courir une heure quand on on voulait.
En tout cas, c'est ce que je plaiderais si toutefois ce couvre-feu vient à être prolongé au-delà des 15 jours. Évidemment, voilà, pour les gens qui travaillent en journée et pour qui ce n'est pas possible de courir en journée ou de faire du sport... Voilà, c'est important qu'ils puissent le faire après 18 heures.
Reste ce problème des enfants, Roxana Maracine. À nous, dans certaines écoles test, les enfants font 30 minutes de sport par jour. Est-ce que ça donne de bons résultats? Est-ce que vous avez des retours là-dessus?
Oui, avec Jean-Michel Blanquer, on a initié cette expérimentation qui avait initialement été portée par le comité d'organisation aux Jeux de Paris.
Paris 2024.
Et nous avons plusieurs académies qui se sont lancées avec des fédérations qui viennent aussi en soutien avec du contenu qu'ils donnent aux professeurs. Et puis, avec deux fondamentaux aussi dès l'école maternelle. Apprendre à rouler à vélo, apprendre à nager, si tant est qu'il est possible
quand
ou pas
possible,
aujourd'hui d'accéder aux piscines. Mais au vélo dans la cour de l'école, ça c'est encore possible.
Et est-ce que ça vous envisagez de le généraliser peut-être pour les activités extérieures, pour lutter contre les ravages de cette épidémie? C'est envisageable dans les écoles de France dans les semaines ou les mois qui viennent?
Bien sûr, c'était une mesure de la stratégie nationale sport santé qu'on portait déjà depuis un an et demi. Mais maintenant, avec l'impact de la crise, ça devient essentiel de pouvoir installer ce rituel sportif dès le plus jeune âge, dès l'école maternelle.
Dans toutes les écoles de France?
Dans toutes les écoles de France.
À partir de quand? C'est quand l'objectif?
On a commencé déjà, on a fait avec l'Académie de Bretagne, avec l'Académie...
Non mais pour la généralisation, vous aimeriez que ça soit quand?
Ah bah, il faut que d'ici la fin du mandat, on arrive le plus possible à atteindre 100% d'une catégorie d'âge, 800 000 enfants... quand on considère, je sais pas, des enfants de 5 ans par exemple en France, ça veut dire 800 000 enfants sur le territoire.
Vous parliez de cette impossibilité de faire du sport dans les gymnases, dans les lieux couverts depuis la semaine dernière pour les enfants des écoles. Beaucoup de profs ne comprennent pas cette décision, ils dénoncent un choix catastrophique. De votre côté, vous avez dit que vous travailliez à la fabrication de masques sportifs qui seront labellisés, donc qui seront donc sûrs et qui permettraient la reprise du sport en milieu fermé, en salle. Ça concernera les enfants aussi, ça ou pas?
Oui, on avait réussi à maintenir effectivement finalement dans notre secteur la possibilité de pratiquer en milieu clos alors qu'on était sans masque. Et effectivement, c'est ce qui pose problème aujourd'hui dans les décisions qui sont prises. Effectivement, le sport est impacté parce qu'on ne peut pas respecter ces distances de sécurité imposées par la crise. Et aujourd'hui, avec ce masque sportif qu'on est en train de normer pour que les fabricants se lancent dans leur fabrication, on espère pouvoir justement rétablir cet équilibre entre le sport essentiel pour la santé des Français et ces précautions qu'on a à prendre liées à la crise.
Vous l'espérez pour quand, ce masque sportif?
Eh bien, demain, on fera une annonce avec l'AFNOR, en tout cas d'un échéancier par rapport à ce masque. Nous travaillons avec l'AFNOR sur d'autres thématiques au ministère des Sports. Et on espère très vite. Maintenant,
pour au retour des vacances de février, par exemple, ça peut être ça? Ça peut être avant? Ça sera après?
Oui, ce sera là. On se donne un délai de 2 semaines pour voir si les mesures prises avec le couvre-feu à 18h et aussi l'arrêt de certaines activités comme le sport en intérieur vont avoir un impact sur les chiffres et de
c'est deux sujets différents, ça, parce que moi, si on a un masque sûr qui permet de faire
bien
du sport
sûr,
en intérieur,
voilà.
On sera... L'espoir, c'est que dans 2 semaines, vous ayez une idée là-dessus, c'est ça?
Oui, dans un mois, je pense.
Dans un mois, d'accord. Et ça permettrait la réouverture des salles de sport pour les adultes, là, pour le coup, ou pas?
Oui, aujourd'hui, il faut que ce travail recueille l'assentiment de la CIC et puis effectivement aussi l'accord du ministère de la Santé sur ce qui a été produit aujourd'hui par l'AFNOR en lien avec le ministère des Sports et les fabricants. Et si on se rend compte que ce masque protège effectivement et qu'on peut reprendre l'activité physique en intérieur, c'est une perspective pleine d'espoir pour les salles de sport.
Évidemment. On le voit bien que cette épidémie, Roxana Maracine, à nous, le sport qui est un plaisir devient un problème. On se bat contre un variant anglais qui est ultra contagieux. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut raisonnablement, même en prenant toutes les précautions du monde, même en parlant de bulles sanitaires, est-ce qu'on peut laisser aller les joueurs du 15 de France jouer en Irlande le 14 février et en Angleterre le 13 mars pour le tournoi?
Depuis le début, c'est vrai qu'on n'avait pas réussi dès le mois de mars de l'année dernière à préserver la pratique du sport de haut niveau parce que tout s'était arrêté. Mais dès la reprise, le sport de haut niveau a suivi des protocoles sanitaires spécifiques à chacune des disciplines, travaillé avec les fédérations et les ligues professionnelles. Et aujourd'hui, c'est ces protocoles qui nous assurent la sécurité pour ces athlètes en prenant bien en considération que la santé, l'intégrité du corps et de la santé des athlètes, c'est leur outil de travail, c'est la valeur aussi de ces joueurs. Donc,
et sachant qu'il y a ce variant ultra contagieux qui fait un peu peur à tout le monde aujourd'hui.
Bien sûr, c'est pour ça qu'il est nécessaire pour des sportifs qui sortent, qui rentrent en France, qui se rencontrent sur des manifestations sportives, que tous les autres gouvernements pilotés tout ça par les instances organisatrices du mouvement sportif européen et international puissent donner à tout le monde, à tous les gouvernements, les garanties nécessaires que la bulle sanitaire.
Mais pour l'instant, vous y croyez encore
assurée.
Pour ces matchs du 15 de France en Irlande mi-février. Pour l'instant, ça reste d'actualité.
Le protocole nous a été remis. On va le soumettre à la CIC, nous, en interne, pour pouvoir leur donner un retour sur la possibilité pour le tournoi destination de se tenir.
Le sport, il y a le plaisir de le faire et puis il y a aussi le plaisir à le regarder. Pour le foot, ça s'annonce compliqué, Roxana Maracineanu. Il y a la déroute de Mediapro à qui la LFP avait attribué la plus grande partie des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Il y a Canal+ qui ne veut plus payer autant pour diffuser les matchs auxquels il avait droit. Tout ça, ça fragilise les clubs dangereusement. Du point de vue des spectateurs, y a-t-il un risque d'écran noir avant la fin de la saison ? Est-ce qu'il y a un risque qu'on ne voit plus les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 en France ?
C'est vrai que le retrait de Mediapro a été un accident industriel, on peut le dire, pour le football français. Et moi, je suis particulièrement attentive à ce dossier parce que derrière tout ça, il y a aussi le financement du sport amateur et du football amateur en particulier. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut que cette saison se termine positivement, qu'on arrive à trouver
un
ou plusieurs diffuseurs. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux de la LFP, mais en tout cas, je crois savoir qu'une consultation va prochainement être lancée très vite, dans les prochains jours, et que la LFP a réagi très vite, la Ligue française de football. Et moi, je suis convaincue que ça va être une étape décisive aujourd'hui pour sortir de cette crise par le haut. Ça va être important aussi que tout le monde participe à la sauvegarde du football français. Ouais. Aussi bien les dirigeants de ces instances, les joueurs, en parlant de baisse de salaire. Ouais. Aussi.
Vous y croyez à la baisse de salaire pour les footballeurs ?
Il faut montrer aussi, et y compris aux diffuseurs, je pense qu'il faut montrer que tout le monde fait un effort. Et les diffuseurs ne doivent pas aujourd'hui se désengager parce que le football et le championnat n'a pas perdu potentiellement en valeur. On a vu quand même des chaînes se positionner pour dire on est intéressé.
Enfin, on est intéressé, mais à vil prix. On est quand même un peu dans le bricolage.
Oui,
on voit bien
mais
que chacun...
ça fait partie de la négociation, tout
mais
ça.
Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de négociation. Là, on a quand même le sentiment que tout cela a été très très mal géré par la Ligue du foot français, la LFP, qui a signé un contrat qui s'est avéré bancal à 800 millions d'euros avec Mediapro. La LFP et ses dirigeants devront-ils rendre des comptes, Roxana Maracineanu ?
Forcément, il y aura une négociation parce qu'il n'y a plus qu'une moitié de saison aujourd'hui. Et on voit bien que c'est aussi pour ça que Canal a remis en question le
Canal lot. Canal joue du rapport de force en ce moment.
Voilà, clairement. Mais c'est important qu'il y ait plusieurs diffuseurs qui se positionnent aussi. C'est pour ça que cette consultation va être regardée de près. En tout
mais
cas, regardée de près par l'État.
Est-ce que les dirigeants de la LFP devront rendre des comptes ? Est-ce qu'ils ont fait une faute pour qu'on en arrive là ?
Aujourd'hui, ils ont fait tout dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'ils ont lancé un appel d'offres. Il y a plusieurs diffuseurs qui ont répondu. Ils ont pris le mieux disant. Maintenant, il y a eu une défection clairement de Mediapro dans ce contrat. Il n'y a pas eu de défection de la Ligue française de football. Et nous avons fait, malgré ce contexte de crise, tout ce que nous pouvions faire pour garder ce championnat attractif. Je crois qu'on a réussi, puisqu'encore une fois, des médias se sont positionnés. Mais s'ils se sont positionnés à vil prix, comme vous dites, c'est parce qu'ils sont aussi en position économique difficile. Il faut comprendre aussi que cette année, les prix de fait baissent pour tous ceux qui les proposent en droit télé. Donc,
le sport, on a aussi plaisir à le lire. Enfin, on avait plaisir à lire, puisque le seul quotidien sportif français, l'équipe, est en grève. Ce sera demain le 12e jour sans parution du quotidien. 180 sportifs de très haut niveau ont signé une pétition de soutien aux journalistes de l'équipe. Est-ce que vous aussi, vous soutenez les journalistes de l'équipe aujourd'hui ?
Tout le secteur des médias a été lourdement touché par la crise, et particulièrement les médias sportifs, parce que il y a eu plusieurs mois d'arrêt de championnat, ce qui faisait aussi le chiffre d'affaires de l'équipe, c'est-à-dire le football s'est arrêté à un moment qui était critique. Donc
l'équipe ne va pas bien dans un groupe qui va bien. Voilà,
oui, et puis il y a aussi une mutation financière de la part des médias à avoir, parce que les sujets à traiter pour le sport et qui intéressent les Français dans le sport aujourd'hui ne seront inévitablement plus les mêmes qu'avant. Et donc il y a aussi une mutation aujourd'hui dans le métier des journalistes sportifs à avoir pour s'intéresser peut-être
donc
un peu plus
à eux de s'adapter,
au sport
ce que
grand public. Je pense aussi qu'il y a forcément une obligation d'adaptation des contenus pour pouvoir continuer à vendre autant et pouvoir même remonter dans les ventes, dans le chiffre des ventes, et que ça continue à tenir la route sur le format papier.
Vous, ancienne sportive de haut niveau aussi, vous ne la signeriez pas cette pétition aujourd'hui ?
J'ai affirmé mon soutien aux journalistes de l'équipe parce que c'est important d'avoir un média aujourd'hui qui parle de sport et exclusivement de sport. Aujourd'hui, c'est très important aussi pour donner de la visibilité aux partenaires du sport, aux partenaires de nos sportifs de haut niveau qui les accompagnent au quotidien. Et pour ça, évidemment, on a aussi besoin des médias. Et moi, en tant que ministre des Sports, j'ai aussi besoin d'un média qui parle de ce qu'est le sport dans la société. Si ce média aujourd'hui disparaît, ou si des services des sports, d'autres médias se voient diminuer ou disparaissent, c'est aussi la place du sport qui sera amoindrie, et on sait qu'elle est quand même pas extraordinaire en France par rapport à d'autres pays.
Dernière question, est-ce que les moniteurs des écoles de ski auront du travail pour les vacances de février ?
Écoutez, aujourd'hui, la décision de fermeture des stations a été prise, on était juste avant les vacances de Noël et Nouvel An, et nous avions réussi à préserver la pratique pour les sportifs de haut niveau et en club. À ce moment-là, il n'était pas question, puisque c'était les vacances des pratiquants scolaires et périscolaires. C'est quand même une activité importante aujourd'hui pour les moniteurs de ski. Si on arrive à remettre en activité et la possibilité pour les scolaires et les périscolaires en local d'accéder à ces remontées mécaniques, ça fera déjà un petit plus pour les moniteurs de ski.
Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est la réouverture en local, c'est ça ?
Voilà,
pour les vacances
en local,
de février, il n'y aura pas plus.
Pour les locaux, c'est pas moi qui décide sur les stations de ski. Je crois que les annonces vont être faites prochainement et les discussions sont aujourd'hui en cours avec les professionnels. Moi, je vous parle des moniteurs de ski et de l'activité sportive dans les stations. Moi, je suis heureuse que les autres activités, déjà au-delà du ski de piste, puissent être maintenues et d'ailleurs découvertes par le grand public et les quelques vacanciers qui se rendront au mois de février dans les stations, parce que c'est déjà un plus pour ces disciplines-là. Maintenant, les pistes qu'on appelle gravitaires, les pistes de ski alpin, elles, il y a des publics réservés qui sont nos publics prioritaires sportifs.
Et vous souhaitez
aujourd'hui
que pour eux, ça puisse au moins rouvrir.
Voilà, qu'on puisse les maintenir et qu'on aille vers aussi le maintien des classes de neige et des scolaires qui puissent accéder à ces cours. C'est un sport en plein air. Ce serait juste une équité rendue par rapport aux autres sports de plein air qui existent sur le territoire français.
Merci beaucoup, Roxana Maras-Tinanou, d'être venue nous voir ce soir dans RTL Soir. Merci à vous.
Merci à vous.
Dans un instant, l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir, Philippe.
Oui.
Vous êtes là, Philippe ?
Oui, bonsoir.
Oui, Philippe.
Excusez-moi, il y a un petit décalage.
Oui, parce que vous êtes notre correspondant à Washington en poste à Paris, la veille de l'investiture de Joe Biden.
Oui, forcément, il y a un petit décalage avec la liaison satellite. Le plus pratique, c'est que je vous fasse la chronique de Washington d'ici.
Oui,
enfin,
d'ici
du studio. Oui. Voilà, excellent. Très, très bonne vanne.
Eh bien, dis donc, ça part.
Alors, c'est demain que Joe Biden devient officiellement le 46e président des États-Unis. Ils ont tellement peur des débordements que même le McDonald's d'Aubervilliers s'est barricadé. Alors, je m'adresse à Kamala Harris qui nous écoute
bien
très
entendu
souvent.
Oui.
On a les dernières analyses de Monsieur Biden. Ne vous éloignez pas trop. On va avoir besoin de vous très vite.
Allez, on vous retrouve juste après la pause. À tout de suite, Philippe.
RTL Soir. Thomas Soto. RTL Soir.
Et c'est l'heure de retrouver Philippe Cavrivière, l'œil de Philippe. Bonsoir Philippe, qu'est-ce que Philippe, oui. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne croyez pas que c'est un peu tard pour faire votre revue de presse ?
Non, mais je fais pas mal. Je me cherche.
Poussé votre journal du micro là.
Je me cherche sur la campagne de publicité RTL.
Ah !
Parce qu'il y a tous les visages. Alors c'est amusant. Elle est marrante, puis avec tous les visages alignés, on dirait le jeu là de l'enfance, la qui est-ce avec est-ce qu'il est vieux ? Est-ce qu'il est blanc ? Est-ce qu'il a une grosse moustache ?
Ouais.
Alors je suis où ? Moi, je suis où ? Ah ben je suis là !
Ah !
Oh, dis donc, faut que j'arrête la frangipane. Qu'est-ce que j'ai grossi, salopard ! Non, non, pardon, c'est Bruno Guillon. C'est Bruno Guillon. Ah, non, je n'y suis pas.
Ah.
Il y a les 16 plus importants, les personnalités qui comptent.
Oui.
Il y a vous, mais moi, j'y suis pas dedans. Oh, ne riez pas, vous n'êtes pas dedans, ni Victoire, ni Peggy, ni Daniel. Il n'y a personne. Voilà.
Ouais.
Amandine Bégaud n'est pas là non plus.
Si,
voilà.
Ça y est.
Donc, je dois être 17e, vu que je ne suis pas sur la campagne.
Allez, Philippe, je
tiens,
pense que...
Tiens, merci RTL.
Il m'envoie
mais je ne le prends pas mal. Hein.
Non, ça a l'air... mais je pense que la direction va corriger le tir rapidement.
Bah, j'aimerais bien.
On parle de l'actu, même si elle n'est pas toujours gaie ?
Alors, non. Jean-Pierre Bacri qui s'en va, Jean-Marie Le Pen qui est en pleine forme et qui se marie. Est-ce qu'on serait-il pas à l'orée d'une nouvelle semaine de merde, nous ? Jean-Pierre Bacri qui est mort une deuxième fois hier à 19h29 quand Thomas Soto a tenté de l'imiter.
Et quand on lui disait « Est-ce que vous êtes un éternel bougon ?» Il répondait « Non, je joue pas toujours des personnages râleurs. Je crois pas au type éclatant de bonheur. J'y mets très mal, c'était c'est épouvantable. Dommage. Pardon, Jean-Pierre. Sauf que là, il n'y aura pas de vacances. C'est chiant. Ouais.
Putain, Thomas, mais bosse tes imitations un peu, bordel. Mais c'est pas sérieux.
Ah, t'es mieux.
Il y a des auditeurs. Demande à Cantelou, il le fait super.
Tu
fais chier, Thomas.
Il filerait son numéro à Cantelou. Vous le disiez, on a appris hier que Jean-Marie Le Pen, 92 ans, s'était mariée avec Jeannie, 88 ans.
Alors, pourvu qu'elle ne pose pas dans Playboy comme Pierrette, Jeannie, parce que à 88 ans, on aura un début de loche en couverture et le téton en bas de la page 45. Mais l'actu est tellement morose, Thomas, que ça fait du bien de parler d'amour avec ce joli petit mariage carnet blanc, donc et même blanc de souche, n'est-ce pas ? Jean-Marie Le Pen.
On en a plein.
Jean-Marie Le Pen, 92 ans, et Jeannie, 88 ans, se sont donc dit « Yavol !» Décidément, ça réveille, décidément, nous on vit l'enfer et Jean-Marie Le Pen vit sa best life. On ferme les frontières, on est en couvre-feu. Le Pen en a rêvé, le Covid l'a fait.
Allez, on reste avec les seniors puisqu'on va parler de leur vaccination. BFM titré hier soir sur le rush des plus de 75 ans vers les vaccins.
Alors déjà, petite précision pour BFM, les plus de 75 ans, ça ne rush pas, ça ne rush plus. Hein. Ça avance éventuellement, ça se traîne en laissant une petite trace comme les escargots,
oh non.
Mais on ne rush plus après 75 ans, BFM.
Bon, les Français ont donc changé d'avis, en tout cas, à propos du vaccin. Et surtout, les plus de 75 ans, justement.
Justement. Alors, attention, on distingue plusieurs catégories chez nos seniors. Les seniors de plus de 75 ans qui disent « Écoutez, je fais confiance aux médecins, je vais pouvoir retrouver mes petits-enfants, c'est formidable. » Les plus de 85 ans qui disent « J'ai pas eu ma soupe, je veux voir Guy Lux !» On va déjà moins bien. Et les plus de 95 ans qui disent on y va tous, hein, au mieux.
Bon, Philippe, et là c'est un peu au médecin, au professeur Cavrivière que je m'adresse. Est-ce qu'il y a un âge limite, docteur, pour faire le vaccin ?
Alors, non, Thomas. La preuve, au Royaume-Uni, ma mère d'Angleterre s'est fait vacciner à 94 ans. Mmh. Son mari, le prince Philippe, à 99. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de se faire vacciner pour 15 jours ? La question se pose. Alors, on se dit la vérité.
Oui.
Il y a un âge où tu ne dois plus faire certains actes médicaux. Mmh. Passé 90 ans, tu ne te fais pas mettre des faux seins, par exemple. Jeannie Le Pen, si tu nous écoutes, il te reste 2 ans, max, pour changer de loche. Tu te fais mettre des prothèses de hanche à la limite, mais il y a un âge. On arrête la déco, mesdames.
Bon, alors, nos plus de 75 ans remplissent un questionnaire avant de recevoir le vaccin. Oui. C'est bien ça, docteur Cabrivière.
Oui. Alors, Thomas, nos plus de 75 ans doivent répondre à cette indispensable question. Êtes-vous enceinte ?
C'est vrai.
C'est la vérité.
C'est dans le questionnaire.
C'est vrai.
Ouais. Indispensable, ça. Ce qui serait un exploit du côté de la dame et du monsieur en face aussi. Entrer dans une dame de plus... Bon, bref. Je rappelle qu'il y a assez peu de naissances en EHPAD. Et tiens, chez nos jeunes mariés seniors, comment ça se passe ? Jeannie, n'oublie pas de prendre ta pilule. Alors, si vous faites un petit, surtout, ne nous le mettez pas de côté.
Bon, je crois que vous vouliez dire un mot ce soir encore sur les restaurateurs qui sont à bout de nerfs.
Ils sont à bout de nerfs. Alors, seuls deux restaurateurs ne râlent pas en ce moment. C'est Paul Bocuse et Bernard Loiseau.
Oh
pour
non.
Tous les autres, c'est compliqué. Et vous le savez, Thomas, moi, je suis attaché à ma région, le Var, et les restaurateurs de Fréjus à Saint-Raphaël manifesteront demain, mercredi. Voilà, ça fait mercredi 20 janvier, voilà, à midi, sur la place de la mairie de Fréjus, cette jolie cité balnéaire du Rassemblement National, n'est-ce pas ? Alors, mes amis restaurateurs m'ont menacé, m'ont gentiment demandé de les soutenir. Je suis obligé de le faire, c'est des Corses, Thomas. Et voilà, je ne sais pas où est la
caméra.
Vous
avez un infrarouge là sur le front, attention.
Ouais, mais c'est des Corses, hein, je vous ai dit que c'était des Corses. Voilà, Jean-Louis du Casar Plage et Arnaud et Julien du Public House. J'ai fait votre message, faut me laisser maintenant et faut me rendre mon chat, hein. Roméo, papa va venir te chercher d'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve qu'il est encore vivant?
C'est Roméo.
Alors, et mon dernier mot ira bien sûr pour l'immense Jean-Pierre Bacri, un vrai homme de gauche, pas la gauche Plumard de Mitterrand, la gauche Slibard de DSK ou la gauche Visslard de Duhamel, la gauche de gauche, celle où se situe le cœur. Alors je déteste dire c'était mieux avant, mais pour Jean-Pierre Bacri, je suis certain que c'était mieux avec. Je dirais, tu fais chier Jean-Pierre, putain c'était pas l'année.
Mais tu vas vraiment finir imitateur toi.
J'ai une petite annonce pour la valise RTL.
C'est quoi ça?
Et je dois dire, la valise RTL a été gagnée cet après-midi. Voilà, je suis vraiment animateur, même si je suis pas sur la pub. Des 16 cons. Alors, j'ajoute, moi qui rêvais d'être des proches, grâce à vous, je suis Marcel Campion, la fête foraine. Alors, j'ajoute dans la nouvelle valise. Formidable. Guy Lux, c'était où la peine, on ne sait plus qui parle. À l'occasion de la journée internationale du pop-corn, cher Denis Fabre, un appareil pop-corn. Voilà, sucré, salé, faites ce que tu veux avec à la maison. Et voilà, la valise c'est dans les grosses têtes et il y a un truc à popcorn à gagner.
Vous venez d'assister en direct au naufrage final du Titanic Cavrivière.
Vous avez vu ça ?
Il était beau, il était fier, putain, il sentait bon le sable chaud et bam, la valise.
Ouais, je suis parti dans le virage là.
Jean-Marie Le Pen, vous pouvez nous annoncer demain Valérie Trier-Vellère?
Oui, écoutez, n'est-ce pas, demain ce sera Valérie Trier-Vellère.
Absolument. Merci. Merci et à jeudi. Dans un instant, la culture de l'actu, Julia Molcou.
RTL Soir. Thomas Soto, RTL Soir.
Alors c'est vrai que depuis hier, on a beaucoup parlé de Jean-Pierre Bacri, qui était bien plus qu'un râleur, qu'un bougon. On a beaucoup entendu et lu ces mots-là. Bonsoir Julia Molcou.
Bonsoir Thomas.
Ce sont précisément ces adjectifs-là qui vous ont inspiré ce soir dans la culture de l'actu.
Laissez-moi tranquille, laissez-moi.
Laissez-moi tranquille. Alors ok, ça n'est pas la chanson la plus connue de Gainsbourg, certes, mais cette phrase et ce titre donc illustrent bien notre sujet du jour, ces personnages d'humeur maussade et au caractère plutôt revêche.
C'est une vieille sorcière. Je tiens à vous prévenir. Si elle sait que Blanche-Neige est ici, elle nous tombera dessus et exercera sa vengeance sur
et
nous.
Et voilà Grincheux, le nain qui a le plus mauvais caractère de tous les sept nains qui accompagnent Blanche-Neige, celui qui garde les bras croisés, les sourcils froncés, qui remettent en question les décisions de prof, bref, celui qui râle mieux que quiconque.
Et alors,
depuis sa sortie en 1937. Vous faites bien Grincheux,
ah,
Thomas.
Pas mal, hein.
Mais on aurait pu citer aussi Droupi ou encore Schtroumpf Grognon, qui commence toutes ses phrases par « Moi j'aime pas ». Voilà. Mais il n'y a pas que dans les dessins animés qu'on aime les râleurs. Le cinéma leur a aussi réservé quelques fauteuils.
Tu te fous de ma gueule? Tu crois que je t'ai pas vu, petit tricheur de mes deux? Les règles, c'est 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes, 3, soleil. Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant.
Max!
Ah, il est super, c'est François Cluzet.
Mais oui, bien sûr, François Cluzet, alias Max, donc dans Les Petits Mouchoirs, qui est à bout. Il ne cesse de hurler, de râler. On sent qu'il en a marre de gérer ses copains pendant les vacances.
Bon, puis il n'y a pas que François Cluzet qui joue les râleurs au ciné.
Oh, bah non, il y a aussi Jean-Pierre Darroussin, Gérard Lanvin, Vincent Lindon, François Berléon. Pas tous dans le même genre, parce qu'il y a les personnages bavards, comme ceux de Richard Boringer. Il y a les laconiques, comme ceux joués par Jean Reno. Et puis, bien sûr, il y a le grand, l'unique, l'inimitable Jean Gabin.
Ton char, tes Ardennes, ton repli sur la Loire, je peux tout te raconter. Mais c'est pas la façon de conduire ton char en 39 que je critique, c'est la façon de conduire ta charrette aujourd'hui.
Bon alors c'est vrai que dans le Pacha de Georges Lautner, il n'y a pas vraiment matière à rire pour Jean Gabin, commissaire divisionnaire qui compte bien venger la mort de son ami d'enfance. Mais de façon générale, Jean Gabin n'est pas resté célèbre pour ses rôles de comique. Ça, c'est pas content de Vodou Game. Et les femmes aussi sont râleuses, Thomas. Je sais que ça vous étonne. Mais au cinéma, Marina Foïs, Maria Paco, Mathilde Seigné ou encore Marthe Villalonga. Oui, mais moi au cinéma, sont souvent très râleuses. Elles font la tronche, elles ont toujours un truc qui va pas. Bref, celle qu'on préfère malgré tout parmi toutes, c'est évidemment le capitaine Marlowe, non?
Ouais, forcément.
Florida.
On a un nouveau cadavre.
Mais c'est pas vrai, il y a un microclimat chez vous ou quoi?
Pourquoi vous arrêtez pas ce type avant qu'il tue toute la famille?
Mais je fais ce que je veux, t'es pas ma mère, hein?
Wow, oh la vache!
Ouais, un commentaire et ça m'a washigiri direct dans le plexus.
Ah mais vous êtes canon, capitaine.
Qu'est-ce que j'ai à te dire? Je voulais savoir si vous avez pas vu un témoin, parce qu'il paraît qu'il y en a un qui s'est planqué dans votre propriété, là.
Un témoin de quoi?
Bah pas un témoin de Jéhovah, hein. Un témoin de meurtre.
Elle plaisante pas. Hein.
Non, elle plaisante pas. C'est donc Corinne Massiero qui incarne le capitaine Marlowe, toujours coiffée de sa chapka. Enfin, coiffée. Je sais pas si c'est vraiment le mot. Mais en tout cas, elle ne sort jamais sans, ni sans son humour noir, ses manières peu communes et son air bougon à souhait. Bref, une fille du genre à dire à un type qui la regarderait mal.
Vois ma gueule.
Hey, forcément.
Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas.
Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette chanson, Thomas?
Pas du tout.
Eh bien, en fait, un soir, en 78, Johnny et son ami parolier Gilles Thibault vont boire un dernier verre dans un bar. Et là, il y a un type qui regarde Johnny. Et Johnny se retourne et il lui dit « Qu'est-ce qu'il y a? Elle te plaît pas, ma gueule? Il y a un truc qui va pas ?» L'histoire aurait pu en rester là.
Incroyable.
Sauf que le lendemain, Gilles Thibault est arrivé chez Johnny en lui disant « Tiens, j'ai une chanson, dis-moi si t'aimes. » Et c'était ça.
Ils sont super attachants et super touchants, tous ces bougons. Hein.
Je suis d'accord. Moi aussi, je les aime bien à l'heure.
Hein. Allez, reviens demain.
Ouais, salut Thomas.